RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
Avec cette question, est-ce que ça sert encore de manifester? Il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue pour après-demain, samedi. On voit bien que la France bloquée, ça a quand même du mal à prendre, hormis certains secteurs clés et toujours avec les mêmes, la CGT. Donc au moment où la réforme continue d'avancer au Sénat, est-ce que ça sert encore de défiler? C'est la question que l'on vous pose et que l'on se pose ensemble au 32-16.
Deux journées sont organisées. La septième journée de mobilisation, ça sera samedi dans deux jours, avec l'idée, et ça c'est plutôt une idée défendue par la CFDT, de faire venir ceux qui ne peuvent pas manifester la semaine, et notamment les familles. C'est la deuxième d'ailleurs manifestation un week-end organisée par l'intersyndicale. Et puis, une autre date a été prévue, c'est celle de mercredi. Pourquoi mercredi? Parce que c'est le jour du retour à l'Assemblée de cette réforme en commission mixte paritaire. Donc là, l'idée, c'est de faire pression sur les députés qui hésitent, et Kevin en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des députés, notamment les députés LR, mais même de la majorité, qui hésitent à voter ce texte. Néanmoins, on voit bien quand même que face à la rue, face à ces fortes mobilisations, le gouvernement fait deux ronds. Hein. Emmanuel Macron ne veut même pas recevoir l'intersyndicale. Donc ça sert à quoi d'aller manifester samedi et mercredi prochain?
Joël?
Je crois que tant que la fin de la partie n'a pas été sifflée, il faut que chacun joue sa partition. Et pour les contestataires, je crois qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire dans la légalité, bien sûr. Mais s'ils veulent manifester, qu'ils manifestent. Enfin, ça sert à quoi? On n'en sait rien, en fait. C'est pas encore voté, c'est pas encore terminé. Donc, moi, je crois que quand on conteste quelque chose, on ne doit pas abandonner en se disant c'est foutu. Donc, est-ce que le gouvernement va plier? J'y crois pas. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est comme l'a dit Kevin, voilà, peut-être des députés LR qui ne votent pas la loi, etc. Mais le
donc
gouvernement.
C'est mettre la pression toujours sur ces élus qui doivent voter.
Le gouvernement, faut bien être clair, pour moi, ne va absolument pas reculer. Enfin, je veux dire, ils n'ont rien d'autre. Là, dans le quinquennat, il y a rien d'autre pour Macron. Rien. Rien. Je veux dire, il y a aucun espoir, il y a pas d'autres mesures phares. Ils nous proposent rien à part ça. Donc, c'est pas sur le gouvernement, en tout cas, que ça peut agir. Ça peut agir sur ceux qui, sur l'opposition, en tout cas, au gouvernement. Et c'est tout. Mais moi, je crois que oui, si on est contre la réforme, on doit continuer de manifester. Oui.
Kevin.
Oui, surtout que le mouvement social est certes un succès, mais ce n'est pas un succès historique, honnêtement. Enfin, même le taux de grévistes à la SNCF, non, c'était à la RATP dans l'éducation nationale, était en baisse par rapport au mois de janvier. Donc on sent bien ici que de toute manière, Emmanuel Macron n'en a rien à faire de la rue. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va se passer au sein de l'Assemblée nationale. Alors pour les députés macronistes qui voudraient s'abstenir ou ne pas voter le texte, évidemment, Emmanuel Macron a sorti la schlag, donc ils sont bien obligés de voter. Sinon,
la schlag, c'est la menace d'exclusion.
Oui, c'est ça, c'est la menace d'exclusion. Déjà, en plus, en ce moment, il y a des bisbilles avec le groupe Horizon sur différents sujets. Donc voilà, donc tout se joue, tout est entre les mains des députés, les Républicains, tout est entre les mains aussi du député Pradier, hein, qui a quand même autour de lui quelques députés qui pourraient s'abstenir ou voter contre. Donc l'enjeu pour moi, c'est est-ce que cette réforme va passer normalement, ou est-ce qu'Emmanuel Macron va devoir utiliser le 49-3? Et ce qu'a dit Monsieur Berger de la CFDT, c'est que si ça passait par le vote des parlementaires, il n'y aurait pas de problème. Par contre, si Macron sortait le 49-3, ça laisserait des traces, il ne se démobilisera pas. Et la question pour Emmanuel Macron, c'est l'après. Comment va-t-il pouvoir diriger la France avec un tel degré de colère et avec une légitimité qui est là, puisqu'il est le fruit de la démocratie, mais à force d'utiliser le 49-3, on peut quand même se poser des questions sur la légitimité de certaines de ces réformes.
Y aura-t-il l'utilisation du 49-3? Je ne sais pas, mais en attendant, il y a des avancées qui ont été faites, puisque le dossier est au Sénat, comme on dit. Retailleau a fait des propositions qui ont été prises en compte par le gouvernement, donc c'est une avancée évidemment positive par rapport à cette loi. Ça va revenir à l'Assemblée nationale, à mon sens, ça va passer. Encore une fois, là, c'est les syndicats font une dernière...
C'est un barreau d'honneur.
Ouais, c'est un barreau d'honneur, je pense, oui, mais ça a toujours été souvent ça, même sur des grosses votes de loi. Donc voilà, encore une fois, je pense que le gouvernement et il faut se dire d'ailleurs que cette retraite, quand même, c'est l'élément clé de la politique de Macron. Hein. Il voulait que, si, c'est il voulait qu'il y ait une réforme des retraites à tout prix. On le dit depuis toujours.
Pardon, mais tout le monde sait que c'est une réformette qui est d'ailleurs, elle est désormais déséquilibrée, puisque comme ils ont fait tellement de concessions, il leur manque de l'argent. Donc en plus, l'argument numéro un, c'était, vous voyez, on gère bien puisqu'on va sauver le système. Il leur manque plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on voit bien tout ça que c'est plus une posture politique. Sincèrement, c'est pas une grande réforme. Enfin, personne ne peut dire que c'est une grande réforme. Il y a des grandes réformes à faire dans ce pays. Une réforme de l'État, une réforme des impôts, une réforme sans doute des collectivités, des institutions, une réforme du marché du travail. Il y a plein de choses à faire. On peut pas dire que c'est une grande réforme. Mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel Macron en a fait un marqueur politique. Et puis je pense que c'est un message aussi qu'on envoie au marché financier. On a beaucoup dépensé, trop dépensé en France ces dernières années. Il faut rassurer ceux qui nous prêtent de l'argent chaque jour. Et on fait une réforme que tous les autres ont fait pour rassurer les agences de notation. Et il faut le dire très clairement, c'est des engagements qu'on a pris et que Macron a pris. Et donc il est un peu coincé. Il est obligé, et Joël a raison, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, il ira jusqu'au bout. Et il passera au 49-3 si vous passez au 49-3.
Ah mais ça, il n'a pas intérêt.
Comment ça?
Ah ben non, il n'a pas intérêt à faire le 49-3.
Mais il le fait, il n'a pas le choix.
C'est dans la Constitution,
Non, mais il n'est pas obligé. Enfin, on en parle comme si c'était une obligation. Il faudrait absolument qu'il passe par le 49-3. Il a le droit aussi de comprendre un peu et le déni, en tout cas. Moi, ce serait, pour le coup, là, ce serait un vrai déni de démocratie. Parce
pourquoi?
Parce que personne n'est pour cette réforme, concrètement. Même ceux qui sont, même moi qui suis pour, je suis contre. Donc, c'est pour te dire à quel point.
Attends. On s'arrête un instant sur cette phrase. Moi qui suis pour, je suis contre.
Mais non, mais je veux dire, si je suis. Si on veut rester sur ce régime-là, effectivement, alors il n'y a pas le choix. Mais je suis contre parce qu'en fait, je trouve que ce régime, il est à bout de souffle.
Il est à bout de souffle. Il faut passer à autre chose.
Mais bien sûr, c'est terminé.
C'est logique.
Moi, je suis un peu d'accord avec Joël. Au départ, j'étais pour cette réforme. Oui. Et plus le gouvernement a fait de la pédagogie, plus je me suis dit, ce n'est pas possible. Et surtout, le premier argument, c'était de faire, comme tu l'as très bien dit, Olivier, des économies budgétaires. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'économies budgétaires. D'ailleurs, ce qui se dit au sein de la majorité, c'est que bientôt, la réforme va coûter plus cher que si on ne la faisait pas. Donc évidemment, ça ne tient pas la route. Mais Emmanuel Macron joue plusieurs choses. Son entrée dans l'histoire aussi. Il veut laisser la trace d'un président réformateur et la suite de son quinquennat. Si jamais il renonce là-dessus, son quinquennat est mort. Totalement mort. Donc il est obligé de la faire passer. Et s'il utilise le 49-3, s'il doit l'utiliser, il l'utilisera, c'est sûr.
Non mais je vois pas qu'il... Non mais vraiment, Emmanuel Macron, l'histoire qu'il a écrite, c'est le plus jeune président français. Celui qui aura réussi à détruire, entre guillemets, la droite et la gauche traditionnelle. C'est tout, hein. Vraiment. Je veux dire, ça sera jamais un grand président parce qu'il a fait on est passé de 62 à 64. Enfin, faut pas se raconter des histoires. Donc, s'il pense qu'il va rester dans l'histoire avec, terminé. Surtout que le prochain, il va pas passer à 65.
Par contre, ce qu'aurait pu être une grande réforme, c'est sa réforme à points.
Oui, c'était une réforme systémique.
Et je ne comprends pas qu'on ne parle pas de capitalisation dans ce pays parce qu'on pourrait évidemment garder un système par répartition pour ceux qui ont une petite retraite, pour assurer un minimal, et les autres mettre en place une forme de capitalisation. Les Français sont pour une réforme, mais pas celle-ci.
Mais c'est la grosse hypocrisie.
Les Français ont beaucoup épargné encore. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens. Donc effectivement,
c'est la grosse hypocrisie française, la capitalisation, parce qu'en fait, droite comme gauche, ils veulent tous être social, entre guillemets, parce qu'en fait, la droite ne veut pas être antisociale et montrer qu'elle serait pour les riches, alors qu'en fait, je vais te dire, la classe moyenne, elle capitalise à mort. À mort. Moi, j'ai commencé à capitaliser quand j'étais en entreprise, en tant que salarié. J'ai ouvert des PER, des machins. T'achètes un appartement. Enfin, on capitalise à mort parce qu'en fait, on n'a aucune confiance envers le système actuel. On a bien compris qu'on ne pouvait pas se reposer dessus. Et la classe moyenne capitalise à mort. Donc, franchement, ce serait bien. En plus, les fonctionnaires capitalisent aussi. Donc, ce serait bien, en fait, qu'on reconnaisse ça, quelque part, enfin, de fait, d'une situation de fait, et qu'on l'entérine par quelque chose de beaucoup plus légal.
Idéologiquement, c'est compliqué à comprendre.
Mais oui, voilà, c'est idéologique.
Nous sommes avec Antoine, coup de fil qui vient de 3 dans l'aube. Bonjour Antoine.
Bonjour les grandes gueules.
Est-ce que vous pensez que ça sert encore de manifester? Ça peut être utile pour contrer la réforme?
Ça sert pour que les syndicats obtiennent ce qu'ils recherchent depuis longtemps, c'est l'abandon de la réforme pour les régimes spéciaux et les fonctionnaires. On n'a jamais vu les syndicats type CGT, Sud, Force Ouvrière, se mobiliser pour le régime général. Ils n'étaient pas là quand on est passé aux 25 annuités. Ils n'étaient pas là quand ils ont voté avec le patronat pour que la retraite complémentaire ait une grosse décote quand on prend notre retraite après 65 ans, etc. Ils veulent surtout pas qu'on parle des 33 milliards d'euros versés généreusement par le contribuable pour équilibrer leur système de retraite. Et je comprends pas que personne n'en parle jamais. Personne ne parle non plus du milliard d'euros versé gentiment par tous les clients de l'électricité avec une fausse facturation faite généralement. Vous avez entendu parler de la contribution tarifaire d'acheminement?
Non.
Vous avez Internet, je crois. Vous avez Internet sur le plateau, je crois.
Ouais, oui, je vais regarder.
Eh ben, vous tapez CTA-EDF et vous expliquerez à vos auditeurs ce que c'est. Ça aura beaucoup plus de poids si c'est moi qui le fais. En fait, les syndicats, la SNCF, l'énergie rentreront dans le rang le jour où le gouvernement capitulera, comme tous les gouvernements ont fait dans ce pays depuis 30 ans, sur les régimes spéciaux et les régimes des fonctionnaires.
Alors, la contribution tarifaire d'acheminement permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières. Une taxe collectée par les fournisseurs d'électricité pour voilà et qui sert ensuite au personnel. Voilà, voilà. C'est ça, cette, cette donc, contribution tarifaire d'acheminement.
Il n'y a rien qui vous choque dans le libellé de la facturation et son utilisation?
Bah si. Bah si, parce qu'on paye, on paye en régime, quoi, ouais. On paye le régime avec qui est soumise à la TVA en plus, hein, cette CTA.
Oui. Ah bah oui, bah il faut faire.
Mais ça, Antoine, voilà. Antoine, on l'a souvent dit. Enfin, je sais pas si on l'a. Moi, j'ai essayé de le dire. C'est que le paradoxe de ce mouvement social, c'est que ceux qui sont dans la rue, la plupart, sont quand même protégés par des régimes spéciaux, ont des statuts particuliers, ne sont pas logés à la même enseigne par rapport au salarié du privé. Et quand on nous explique que la clause du grand-père, c'est formidable, là, on va changer la règle. Je prends, il y a un cadre qui a 55 ans, là, en ce moment, dans le privé. On lui change la règle du jour au lendemain. Il ne partira pas comme il l'avait prévu à 62 ans. Il devra faire quelques trimestres supplémentaires. Là, il n'y a pas le clause du grand-père. En revanche, à l'RATP, on dit, ah non, c'est pas celui, lui, on va attendre le futur embauché. Donc, effectivement, c'est assez paradoxal en France. Ce sont les mieux protégés qui font grève et qui manifestent.
Mais évidemment.
Mais oui, parce que vous avez un système où c'est celui qui a le pouvoir de nuisance, c'est celui qui crée le fort, qui bloque. Mais regardez, ça fait 30 ans depuis Michel Rocard où il y a eu le premier livre blanc sur la réforme des retraites qui dit qu'il faut réformer le système est condamné à terme.
Bah oui,
aujourd'hui, on a plus de 50 milliards d'euros de déficit sur le système. Vous avez encore des intervenants sur votre plateau, je ne les citerai pas, qui nous disent la réforme ne se justifie pas. À 50 milliards d'euros, enfin, vous avez un instituteur, enfin un professeur, quel est le budget de l'éducation nationale aujourd'hui?
Ah mais il est
milliard,
c'est quoi 80 milliards, c'est le premier budget de
voilà.
De
je ne sais pas exactement le chiffre.
80 milliards non environ.
Mais voilà, c'est 80 milliards. Voilà,
voilà, 80 milliards.
Vous avez 50 milliards d'euros qui sont payés par le contribuable français pour financer les retraites. Je vais mettre des guillemets de privilégiés. Est-ce que ces 50 milliards d'euros, on pourrait pas les mettre dans l'éducation nationale par exemple ou dans l'hôpital ou ailleurs?
Alors Kevin.
Non mais déjà l'idée qu'il faut se servir de la réforme des retraites pour financer la santé ou pour financer l'éducation, pour moi, c'est hors de propos. Le but d'un système des retraites, c'est qu'il s'autofinance. Là, ça, c'est déjà, c'est la première chose. Par contre, je suis d'accord avec vous. La vérité, c'est que globalement, le régime général est en équilibre. Le problème dans notre pays, c'est les régimes spéciaux, et c'est les régimes des fonctionnaires, et c'est un fonctionnaire qui vous le dit, puisque le contribuable doit payer plus de 30 milliards d'euros. Le problème, c'est qu'on ne fait pas les réformes dans ce pays qu'il faudrait faire, notamment la suppression, encore une fois, d'un bon nombre de fonctionnaires dans certaines administrations, faire en sorte de rendre également plus efficace le travail de certains fonctionnaires et se moderniser. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, on a des outils informatiques qui permettraient de supprimer des postes, qui permettraient de faire des économies et de dégager de l'argent pour augmenter le traitement des fonctionnaires vraiment de terrain, des policiers qui sont sous-payés, des enseignants qui sont sous-payés, des infirmières qui sont sous-payées. La vérité, c'est qu'on dépense beaucoup dans notre pays pour la fonction publique, mais c'est extrêmement mal réparti. Donc on a des services publics qui fonctionnent de plus en plus mal et des fonctionnaires sur le terrain qui sont de plus en plus malheureux et en plus une défiance des salariés du privé contre les salariés du public, puisqu'ils estiment en effet que les salariés du public sont mieux traités que les autres. Donc forcément, en termes de pacte social, ce n'est pas possible. Mais le problème, c'est que pour faire cela, il faut du courage politique. C'est comme avec cette réforme des retraites. Comment voulez-vous faire une réforme des retraites si vous ne réglez pas l'emploi des seniors? Le Sénat a essayé de le faire là, avec la création d'un CDI senior qui coûte plus, je crois, de 800 millions d'euros. Mais il est trop tard. Il faut faire des choses avant cette réforme des retraites. Donc on se mord la queue dans ce pays. On ne fait pas les bonnes choses en beau moment.
Merci Antoine d'avoir été avec nous. Le risque, c'est que là, si les manifestations continuent, elles soient de plus en plus radicales.
Oui.
Aussi, et que
elles se réduisent.
Voilà, il y a de la violence en plus. Bon, faut pas l'espérer, bien sûr. On va regarder la consultation. On a discuté 10 minutes. Je remercie encore Antoine d'avoir été avec nous. À quoi bon encore manifester? Est-ce que c'est utile ou pas?
Ouais, tu vois, regardez, c'est toujours équilibré.
Oui, hein, 54-46.
Ça reste toujours.
Le oui un peu baissé parce que quand on faisait ce genre de consultation, on était plutôt deux tiers, un tiers. Là, c'est plus le cas.